Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission estivale qui confond le cinéma et la vie. Et alors là, attention, va y avoir du bourre-pif, hein, parce qu'il va y avoir Lino Ventura, oh là là, le Rital de notre cœur. Alors, chez Lautner, il donnait des bourre-pifs, mais c'était aussi l'acteur qui refusait d'embrasser ses partenaires au cinéma. C'est bien dommage, enfin nous on aurait bien aimé l'embrasser. Pardon, on s'égare. Bon, maintenant, c'est Lino.
Guillemette Odissino. On se fait des films sur France Inter.
Aventurier, n'est-ce pas? Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau.
Il y en a qui gaspillent et il y en a d'autres qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein?
Prends encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là.
Voilà vos encaissements en retard. Il y a gravé d'une amende en plus.
Les Wolfenis ont essayé de me flinguer.
Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre.
Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Lino Ventura, l'homme qui n'embrassait pas au cinéma, l'italien qui ne draguait pas, le pilier du cinéma français, était en fait un homme avec des kilos de pudeur. Pas causant, Lino, hein, seulement quand il jactait du Audiard. Mais il avait tout de même le sens de la formule. Il disait « À mes débuts, c'est tout juste si l'on ne croyait pas que je dormais avec un Colt sous mon oreiller. »
Vous avez toujours voulu être acteur ?
Jamais.
Alors comment ça a commencé ?
Une coïncidence. Purement, on est venu me chercher. J'ai dit non, et puis me voilà.
Et dès le premier film, vous avez su que vous étiez un acteur ?
Non, on me l'a dit, moi je le savais pas.
Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont conseillé à ce moment-là ? Ou est-ce que vous avez mené votre carrière tout seul ?
Vous savez, je n'ai jamais permis à qui que ce soit de décider en mes lieux et places, moi. Moi, j'ai jamais eu de... Je n'ai pas d'agent, je n'ai pas de... Mon conseiller, c'est moi.
Vous êtes extrêmement orgueilleux.
Peut-être. Si c'est de l'orgueil, peut-être. Si c'est de l'orgueil, j'en ai beaucoup, alors.
Tout à l'heure, vous parliez de l'angoisse. Est-ce que vous êtes toujours angoissé? Ça augmente, ça diminue, l'angoisse, votre âge?
Angoisse de quoi? De la mort? De quoi? De l'avenir? Du métier?
Comment commencer un film?
Oui, l'angoisse d'être
premier jour de tournage.
Ah non, alors ça, non, je connais pas, non, ça. Oui, je sais que ça fait très, très, très mal de dire ça. On doit mourir de peur. Le trac doit vous nouer les tripes. Je suis désolé, je ne l'ai pas. Voilà. Je suis désolé, je suis un pithécanthrope, si vous voulez, mais je ne l'ai pas. Ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas. Je n'ai aucune angoisse à ce sujet. J'ai des doutes. J'ai le désir de bien faire. J'ai le désir de ne pas me tromper. Mais je n'ai pas d'angoisse, non. Donc disons que je suis plutôt un comédien d'instinct, comme ça. Voilà.
Et comédien d'instinct, ça veut dire que vous ne travaillez pas?
Qu'est-ce que vous appelez travailler?
Je veux dire
me torturer sur un rôle pour savoir... Non, non, je sais pas que je ne travaille pas, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est pas juste. Mais je ne me tourmente pas, je veux dire que dès le départ, si on me propose demain de faire par exemple... un certain rôle, moi, je sais que je vais pouvoir le faire. Ou je sais que je ne pourrais pas le faire. Alors je ne le fais pas. Voilà, ce sont des critères à moi qui sont basés sur, je ne sais pas, sur un instinct, si vous voulez. Mais on ne peut pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Ça, c'est pas possible.
Non. Angelo Pasquale Borini, né à Parme le 14 juillet 1919. En 1927, il est donc âgé de 8 ans lorsqu'il quitte l'Italie de Benito Mussolini avec sa mère Luisa pour échapper au fascisme et rejoindre son père Giovanni, parti quelques années auparavant travailler comme représentant de commerce à Paris. Mais arrivé à Montreuil, où il est censé habiter, Luisa et Angelo ne trouvent pas Giovanni. Il a disparu, volatilisé, il ne reviendra jamais. Lino et sa mère s'installent chez des amis, au 57 rue de Romainville à Montreuil, au cœur de la communauté italienne. Puis rue Papillon, dans le 9e arrondissement de Paris, où Luisa a décroché un emploi de femme de chambre à l'hôtel Baudin. Pour aider maman, Lino quitte l'école, tout môme, et forge sa personnalité et son jeu de jambes dans plein de petits boulots, groom, coursier, représentant en layette. À l'âge de 16 ans, un champion autrichien de lutte gréco-romaine résidant à l'hôtel Baudin lui propose de venir s'entraîner à la lutte dans la salle des Gobelins. La Deuxième Guerre éclate. Soldat dans l'armée italienne, Lino déserte lors d'une permission en juillet 1943 pour rejoindre à Paris Odette, qu'il a rencontrée avant la guerre dans l'agence de voyage où il bossait comme coursier et qu'il a épousée en janvier 1942. Lino ne veut pas revenir au front et se réfugie dans une maison servant de grange à Barassé. Bien plus tard d'ailleurs, il achètera ce refuge. Après la guerre, c'est la lutte, le catch. Et ce soir de mars 1950, sur le ring du cirque d'hiver de Paris, où Ventura, tout jeune champion d'Europe, chute et se brise la jambe. Il va falloir se reconvertir.
Dis donc, qu'est-ce que tu penses du Ramon ?
Bah, ce que tu veux que j'en pense ? J'en pense à rien, moi, de ton Ramon. J'en ai rien à foutre. La seule chose, je sais que le gros, il l'a pour la chouette, c'est tout. Enfin, je crois que ça devrait pouvoir s'arranger, quoi. C'est une question de bonhomme entre vous. Hein ?
Je sais pas ce qu'en pense Max. Tu connais pas Ramon, je crois.
Non, je le connais pas. Puis votre truc de cam, c'est spécial, hein. Non, ce qu'il vous faudrait, c'est un gars qui présente bien et puis qui a pas l'air déplacé au milieu de la clientèle, quoi.
J'ai une maison sérieuse, bien cotée en haut lieu et qui m'a coûté beaucoup de pognon. J'ai pas envie qu'on me la ferme pour faire un avantage à monsieur Ramon. C'est un train de patin, ton Ramon. T'es qu'à le garder comme chauffeur, c'est tout ce qu'il peut faire.
Bon, ben, j'ai une idée, moi. Je crois que j'ai l'homme qu'il vous faut. En tout cas, je réponds pour lui. Alors si ça lui botte, je vous l'envoie dans 5 minutes.
Il me plaît, Max. C'est un ami. Puis quand il aime quelqu'un, hein, c'est la vie à la mort. Regarde avec Riton, par exemple. Ça fait 20 ans que ça dure. Ouais, d'après ce qu'on dit.
Oui, ça fait 20 ans qu'il se quitte pas.
20 piges. C'est de l'amitié, ça, hein.
Et j'en ai autant pour lui, figure-toi.
Touchez pas au Grisby. Le premier film de Lino est arrivé vraiment par hasard. En 1953, un de ses amis parle de lui au réalisateur Jacques Becker, qui cherche une force de la nature pour jouer face à Jean Gabin. Pas emballé, Lino, d'abord, hein. Il refuse, puis demande un cachet mirobolant qui lui est accordé à sa grande surprise. Quand il se rend sur le tournage de ce film où il incarne le truand Angelo, il annonce à son épouse Odette « Le premier qui rit de moi, je lui flanque ma main dans la figure. » Il a 35 ans. Comme seul cours de comédie, il a vu les films de James Cagney et de Spencer Tracy. Commentaire de Gabin à Jacques Becker, réalisateur du film. « Il est bat, ce garçon-là. Où tu l'as déniché ?»
Maintenant, il y a un autre jeune garçon que je ne connais pas. Alors, je crois qu'il a changé de nom. Gabin, venez représenter. Venez le présenter. Alors, quel est l'autre de vos camarades ?
Eh bien, c'est Lino Ventura. C'est un garçon qui n'avait jamais fait de cinéma.
Qu'est-ce qu'il avait fait ?
Il a fait du catch. Il a... Il a... Euh, il il organise des matchs de catch. Il n'avait jamais vu un appareil de sa vie, il n'avait jamais fait de cinéma.
Il n'a pas eu peur?
Je peux vous dire un truc, moi quand je l'ai vu, j'en ai baillé.
Ah.
Et je voudrais vous le présenter parce que quand vous le verrez, eh ben vous verrez comment il est dans le film.
Mais je crois qu'il a changé de nom pour faire du cinéma.
Oui, en effet, j'ai pris le nom de Lino Borini.
C'est un nom gentil,
oui.
Qui paraît doux, apparemment.
C'est exact, oui.
Et quel personnage jouez-vous dans Touchez pas au Grisby?
Le personnage d'Angelo.
Il joue Angelo, il joue le chef de gang, du gang adverse, quoi. Puis en dehors de ça, ça a été un copain épatant. Et puis j'espère que pour lui, ça sera de première.
Et un grand démarrage dans le cinéma? Vous souhaitez refaire du cinéma?
Ma foi, oui.
Ça vous a amusé? TVC?
Les premiers jours, peut-être pas beaucoup, mais enfin, j'ai trouvé une ambiance qui m'a plu, qui m'a mis à l'aise, et je dois vraiment dire que Gabin, avec lequel je me le représentais un peu comme une terreur, et puis au contraire, c'est lui qui
comme
m'a...
Comme une vedette, c'est la même chose.
Peut-être, oui, mais enfin, c'est lui qui m'a, pour ainsi dire, ouvert les bras, quoi, qui m'a aidé beaucoup, je dois le dire.
Non, je t'ai pas aidé. Et tu sais, quand on parle de révélation de cinéma, ben, ils verront.
Allez hop, le cinéma est comme Jean Gabin, il aime d'emblée Lino. Et Lino enchaîne avec d'autres seconds rôles, dans entre autres Razzia sur la Schnouf d'Henri Decoing en 1955, où il est Roger le Catalan. Mais son premier rôle arrive vite, en 1958, dans Le Gorille vous salue bien de Bernard Bordery.
Ah, c'est malin, un type de votre valeur. Hein, réussir un coup pareil et puis à la dernière minute risquer votre peau pour sauver quoi?
Oh, dites, les poules de gangsters, c'est pas de mon âge, ce serait plutôt du vôtre.
D'Artagnan, hein? Vieille galanterie française.
Mais c'est pas leur complice, c'était leur passe-temps, voyons. Allons.
Toute action judiciaire éteinte. Vous avez eu Vesselot, le tueur, l'acheteur, vous avez écœuré l'ambassade. Allez, disparaissez pour quelque temps.
Et par l'escalier de service? Parfait.
J'attends quelques amis. Riard, Blavet, la DST, enfin. Tout ça va les énerver, vous les connaissez.
Oh oui. Et puis, mon cher colonel, il faut bien dire que vous aussi, je commence à vous avoir assez vu. Le gorille vous salue bien.
Avec le personnage de Géo Paquet, dit le gorille, il devient une star populaire.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300 ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peigne-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Les bourgeois, Jacques Brel. Nous sommes en compagnie de Lino Ventura. Ça y est, le grand public le connaît, l'aime, puisqu'il vient de jouer le gorille vous salue bien. Mais il continue aussi à incarner des seconds rôles dans des films épatants, comme Marie-Octobre, de Julien Duvivier en 1959, un véritable dip-tinègre au cœur d'un réseau de résistants.
Qui prévoirait que ces tentacules vont libérer tout à l'heure ce réfrigérateur, rêve de toutes les ménagères?
Du coup, le sang, la fabrication des frigos, dis-tu parles d'un western? Oh, c'est une émission culturelle. Quelle heure est-il donc? Ah bah oui, le tien, c'est pour plus tard. T'as pas la télévision, toi?
Ah non, comme cinéma à domicile, j'ai ma femme.
Merci, Victorine. Marié?
Non, on vit en amateur. Tu connais Linda Bell?
La chanteuse. Si tu viens, si tu viens, dans mon sixième étage, tu verras, je te dis que ça, mon panorama.
C'est ça? Je connais ses disques.
Eh ben moi, à la maison, j'ai les deux faces, et puis pas en cire, hein, en chair en os. Parle d'un micro-sillon.
Et en dehors de ça?
Ben, en dehors de ça, je dirige un nightclub, le Sexy Pigalle.
Sans blair. C'est intéressant, ça.
Un établissement de premier ordre, hein. Du striptease, mais authentique.
Mais tu ne dois pas t'embêter.
Ah, je m'embête jamais, mon travail.
Si jamais bien visiter les coulisses, moi.
Eh ben, t'as qu'à venir, ouais. J'ai repris l'affaire en 45. Mais deux briques que ça m'a coûté. Ah oui, mais rien que des artistes de premier choix, hein.
Oui.
Parce que striptease, c'est vite dit, là. Mais striptease pas qui veut, mon pote.
Bah, tu me parles, oui.
Au bout déjà d'une quinzaine de films, Lino commence à se sentir à l'étroit dans les rôles de baraque et de gangster taiseux. Il refuse de tourner les suites du Gorille, pourtant un énorme succès commercial.
Lino Ventura, je voudrais vous poser une question. Vous avez été lancé dans le cinéma avec un personnage qui s'appelait le Gorille. Comment se fait-il qu'on ne vous ait pas revu dans ce genre de personnage?
J'ai été lancé dans le cinéma également par autre chose, si on peut. Mais enfin, je dois reconnaître que le Gorille m'a mis...
a fait de vous une grande vedette.
Sur un autre plan, disons. Effectivement, il est certain que je dois beaucoup à Bernard Bordery d'avoir eu le courage à ce moment-là de me choisir pour interpréter ce film de bout en bout. Et si je n'en ai pas retourné, c'est parce que j'ai voulu arrêter un peu pour ne pas être définitivement catalogué dans un genre. Et peut-être qu'un jour, j'en retournerai un autre. Enfin, je ne sais pas, on va voir.
Vous avez interprété de nombreux rôles depuis Le Gorille. Et le dernier en date, dans Les Lions sont lâchés, vous jouiez le rôle d'un docteur.
Oui, effectivement. Là, je suis un... Ce qui change tout à fait, je suis un docteur.
Et un docteur fort aimable, et courtois et calme.
Mon Dieu, fort aimable, ça pas tout à fait. Mais enfin, courtois quand il le faut et assez sale de garde aussi quand il le faut.
Lino veut des rôles plus complexes et plus vertueux. Un soir, lors d'une soirée mondaine, José Giovanni, l'ex condamné à mort, gracié, est devenu écrivain, est dans un coin de la pièce. C'est vous qui avez écrit Classe tout risque ? Je m'appelle Lino Ventura et je voudrais jouer le rôle. Lino demande à Giovanni s'il connaît un metteur en scène pour réaliser le film. Giovanni vient à peine de sortir de prison. Il a peu de relations dans le milieu, ou en tout cas, pas dans le milieu du cinéma. Alors, Lino lui présente un jeune homme en impair qui fume beaucoup, un certain Claude Sauté.
Abel Davos risquait sa tête. Traqué par toutes les polices, il ne cherchait qu'une halte pour sa femme qui n'avait jamais confondu son mari avec l'ennemi public dépeint par la presse et pour ses enfants.
Et puis si un jour, tu voyais des hommes qui m'entourent, il faudra pas t'approcher, ni crier, rien.
C'est qu'on ira.
Ici, dans une église.
Qu'allait-il devenir ensuite? Il ne pouvait que suivre la voie qu'il avait lui-même tracée. Le voyage serait dangereux, difficile. Le billet qu'il avait pris en gare de Milan, c'était bien un billet classe tout risque.
Eh ben, ça me fait plus plaisir que tout ce que tu me dis là. Ah oui, je crois que c'est le bout du chemin. Pour qui? Pour l'un des deux? Ou pour tous les deux?
Superbe film noir, où Lino est magnifique dans le rôle d'Abel Davos, condamné à mort par contumace, et qui déjà, comme beaucoup de héros de Sauté à venir, est là des choses de la vie. Même s'ils seront souvent teintés d'argot et d'autodérision, honnêteté, pudeur, respect vont devenir les maîtres mots de Lino. Et il les imposera dorénavant aux scénaristes et aux réalisateurs qui viennent le solliciter. L'année suivante, en 1961, arrive le film que l'on revoit presque aussi souvent à la télé que les Tontons Flingueurs et où les dialogues d'Audiard sont peut-être encore meilleurs, car il ne faut pas trop emmerder le brigadier Théo Dumas.
Vous n'êtes pas allé à Paris depuis combien de temps?
Depuis un an.
Moi, je suis passé en transit il y a 3 mois.
J'espère que ça vous a plu.
Et si on parlait d'autre chose, hein?
Pourquoi c'est instructif? Belle petite ville de garnison, hein? Beaucoup de plaisir, promenade, jolie mademoiselle.
J'ai habité 2 ans, cité universitaire en face du parc Montsouris.
La rive gauche en dehors du Veldiv, c'est que dalle.
Le soir, souvent, je descendais dîner rue Monsieur le Prince.
Chez le Chinois?
Chez Adèle.
Mais... Vous allez pas nous déballer toute votre carte postale, non? Couplé sur Paris, là 2 ans qu'on en croque. Ça revient comme du chou. Les petits bistrots pas chers, les grands billes du samedi, la place du Tertre et le toit du pont de l'Allemagne. Et dans 5 minutes, il y en a un qui va sortir un ticket de métro ou des photos de l'affaire du trône. Pour moi, tout ça, c'est râpé. Il n'y a plus de Paris. Il y a Grosse Paris, un point, c'est mort.
Seriez-vous insensible à la nostalgie, brigadier Dudu?
Non, mais j'aime pas penser à reculons. Je laisse ça au lop et aux écrevisses. Bravo.
Ah, je suis heureux de vous l'entendre dire.
Gratter un boxeur, un philosophe apparaît. Il y a dans le chèque Dudu un Platon qui sommeille.
Et ben, Platon, il dit bien des choses.
Il faudrait toujours tuer l'ennemi avant de le connaître. Le film de Denis de la Patellière se résume à cette réflexion de François Jonsac, épatant Maurice Biraud, l'intellectuel engagé dans les forces françaises libres. Et c'est dans ce film qu'est prononcé le légendaire « Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche ». Si on vous dit Fernand Naudin et Francis Lagneau, eh oui, on y arrive à ces tontons flingueurs et à ces barbouzes, les deux merveilles que Georges Lautner tourne en 1963 et 1964. Allez, d'abord, on se fait une petite Lulu la Nantaise.
De l'alcool à cet âge-là.
Non, mais c'est un scandale, hein.
Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit, hein?
Ça le fêtait. Le trop de folasse. Hein?
Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Ça va rajeunir personne.
Elle nous l'a sauvé.
Tiens, vous avez sorti le vitriol?
Pourquoi vous dites ça?
l'air honnête.
Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires.
Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein.
J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la tôlière. Une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu ?
Lulu la Nantaise.
T'as connu ?
J'ai trouvé un goût de pomme.
Il y en a.
Ben c'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait dessouder.
Et par qui ? Hein ?
Ben là que j'ai plus ma tête.
Par Teddy de Montréal.
Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite.
Toute une époque.
C'est Michel Audiard qui obtient que la réalisation d'une fantaisie policière avec Jean Gabin, le terminus des prétentieux, soit confiée à Georges Lautner. Mais Gabin exige de travailler avec les techniciens auxquels il est habitué. Et Lautner, lui, n'en veut pas. Alors, exit Gabin. Et à sa place, c'est Lino Ventura qui est engagé. Difficile à croire aujourd'hui, mais à l'époque, Lino est inquiet. Car il ne se sent pas capable d'être drôle devant une caméra. Un jour, sur le tournage de ce film, qui sera rebaptisé Les Tontons Flingueurs, Ventura doit en découdre avec un cascadeur. Et il découvre que celui-ci n'est autre qu'Henri Cogan, l'adversaire qui, en 1950, a mis fin à sa carrière de catcheur en lui cassant une jambe sur le ring. Au lieu de faire semblant, comme dans toute bagarre de cinéma, il lui balance un de ses uppercuts. Ça, dit-il très calmement, c'est pour ma jambe.
Ah, écoute, oui, ta bombe, tes affaires, tout ça, c'est bien gentil, mais moi aussi j'ai des affaires, tu comprends? Et les miennes, en plus, elles sont légales.
Oui, j'ai compris. Les potes, c'est quand tout va bien.
Mais ça va pas, toi, dis. Hein? J'ai pas dit ça, hein?
Non, t'as pas dit ça, mais tu livrerais ma petite Patricia au vautour. Oh, mon petit ange.
Ton petit ange, hein.
Oui, oh, maintenant que t'es dans l'honnête, tu peux pas savoir le nombre de malfaisants qui existent. Le monde en est plein. Ils vont me la mettre sur la paille, ma petite fille. La dépouiller, enfin, tout lui prendre. Je l'avais fait élever chez les sœurs. Apprendre l'anglais, enfin, tout. Résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute. Attends, ce sera de ta faute.
Écoute, arrête un peu, hein. Depuis plus de 20 piges que je te connais, je te l'ai vu faire 100 fois ton guignol, alors, hein? Et à propos de tout, de cigarettes, de cannes, de nanas, la chair à merde, ça a toujours été ton truc, à toi. Et une fois, je t'ai même bu sur l'heure, tu vas quand même pas me servir ça à moi, non?
Si! Bah, tu te rends pas compte, Saligo, qu'elle va perdre son père, Patricia. Que je vais mourir.
Non, je te connais, t'en es capable. Voilà 10 ans que t'es barré. Tu reviens, je laisse tout tomber pour te voir, et c'est pour entendre ça? Et moi, comme une bombe! Entrez.
Dans la foulée, il tourne Les Barbouzes, où Mireille d'Arc devient la mascotte de la bande à Audiard.
Vous avez l'air soucieux.
Il y a de quoi, oui. Il faut dire, ça fait jamais plaisir.
Qu'est-ce que je vous ai fait?
Vous, rien, mais c'est tous ces autres, là. Le ricain, les Chinois, toutes ces fatalités, vous allez finir par me prendre pour un brutal.
Oh!
Mais si.
Pourquoi dites-vous ça?
Mais parce que je connais la vie, hein, marrant. On juge facilement les gens sur les apparences. Voilà. Tenez. Si je vous disais déjà qu'à 13 ans, je me suis fait virer du lycée Jean Sonsaï pour un malheureux coup de poing dans la gueule. Je défendais un petit et quand il...
Si.
Ah, parce que j'ai peut-être jamais pris de coup de poing dans la gueule.
Si, sûrement même. Mais pas Jean Sonsaï. Francis, qui êtes-vous juste?
Un fumier et une ordure.
Un cafard abject, un sycophante glaireux. Ah, oh, si tu savais ce que ça me gêne de te mentir tout le temps comme ça.
Bon, bon, bon.
Bon, bah, t'as raison, j'ai jamais été à Janson de Sailly, là.
Voilà. Toi, par contre, dis donc.
Tout à l'heure, tu me parlais de l'Ange Rouge. Mmh. Eh ben, tu sais où je les ai faites, mes humanités, moi? Mmh. Au Coliseum.
J'ai connu.
Oui.
On y allait le dimanche après-midi avec Lucienne. À cette époque, je m'appelais Antoinette et Rosalène s'appelait Lucienne.
Ah bon?
C'était le début du tcha-tcha.
Le tcha-tcha. Eh ben, je te plains.
Mais pourquoi?
Parce que t'es né trop tard. Qu'est-ce que t'as connu? Des contorsionnistes? Des voltigeurs? T'as jamais connu les vrais câlins? Allons, on ne donnait pas dans le tropical, mais... On faisait tout ça dans le Suave, Saint-Louis Blues, tango chinois.
Ouais, emballage et hôtel tout confort. Eh ben, figure-toi, nous, c'était pas le genre. On y allait pour danser. Et même des fois, plutôt que de se faire accompagner, on rentrait à peine jusqu'à la Contrescarpe.
Où ça, t'as dit?
À la Contrescarpe.
Tu sais où je suis né, moi? Rue Mouffetard.
Oh, c'est pas vrai.
Si. Ah!
La bande à Audiard. Enfin, la bande à Mireille, comme certains l'appellent. Et même s'il adore la grande sauterelle, ça l'énerve un peu quand même, Lino, ça.
On se fait des films sur France Inter.
On se fait des films avec Lino Ventura, qui vient de faire les Tontons Flingueurs, les Barbouzes. Ça y est, il était entré dans la légende. Un jour, au Quartier Latin, deux types s'engueulent pour une place de parking. Un passant, costaud, s'interpose et prend une baffe. Il s'appelle Lino Ventura. Il se baisse pour ramasser sa pipe. Et le type, pendant ce temps, en profite pour insulter sa femme. Michel Audiard, témoin de la scène, raconte. Alors là, le père Lino s'est fâché. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un miroton faire le tour de la place Saint-Germain-des-Prés à coups de pompe dans le train. Voilà où s'amène la courtoisie florentine. Voilà surtout comment Lino Ventura fournit à Michel Audiard le titre et le sujet de « Ne nous fâchons pas », l'histoire d'un gars qui a vraiment décidé de se ranger, de rester calme, mais ce n'est pas facile quand on doit s'occuper de Léonard Michalon.
L'ancien. Je viens de mettre un mec en l'air, maintenant on l'oublie en croque-mort. Tu permets, il y aura quand même comme de l'argent sur la jet de coin, non? Et aussi, si tu m'avais pas filé un flingue, ben, tu serais mort. Oui, t'as raison. En 5 ans, pas un mouvement d'humeur. Pas une colère, même pas un mot plus haut que l'autre. Et puis d'un seul coup, crac, la fausse note. La mouche dans le lait. Ah, je te jure que ça m'a secoué, hein.
Retour du côté de José Giovanni, qui est l'auteur du scénario du Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville en 1966, avec un rôle pour Lino comme il les aime. Gu, le gangster qui pourrait fuir la France après sa deuxième évasion, mais qui choisit de rester, car il ne peut pas admettre qu'un policier le fasse passer pour un donneur. Lui, l'homme d'honneur.
4 balles de Colt et 3 balles de carabine. Cela représente la mort de 2 hommes. Tué par qui? À mon avis, par Gu, qui a employé la même méthode que pour Francis le Bancal il y a 15 ans.
Tu sais d'où je viens et tu sais ce qui m'attend, vous?
Qu'est-ce qui t'attend?
On aborde un drôle de tournant. Il arrive quelqu'un de nouveau et tout change. Si Gu a dénoncé Paul, il mourra. Je n'ai rien à ajouter.
Pas avant d'avoir établi la vérité sur moi.
Il lui faudra bien 1 mois et demi ou 2 avant de pouvoir prendre le large.
Bouge pas, Antoine.
Après la sortie du Deuxième Souffle, Jean-Pierre Melville se vante à un journaliste d'avoir manipulé Lino sur la scène où il saute d'un train. Il avait demandé qu'on augmente la vitesse du train en oubliant de prévenir Lino. Comme si Lino pouvait avoir peur. Lino n'a plus jamais adressé la parole à Melville, y compris sur le tournage de leur film suivant, qui reste peut-être son plus grand film.
Et votre mari? Elle est au courant de vos activités?
Absolument pas. Ma fille non plus. C'est elle. Elle a 17 ans.
Gardez pas ça sur vous.
Vous avez raison, je vais m'en séparer.
Avant même de reprendre ce que je n'ose appeler la routine, nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.
Vous en avez trouvé une?
Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en sortir avec Félix.
Mathilde, je veux sauver Félix. Mais je n'engagerai pas un groupe de combat dans une aventure désespérée. Je n'ai pas le droit de sacrifier qui que ce soit.
Il n'est pas question d'un groupe de combat. Avec le masque, Jean-François et le bison, je dois y arriver.
L'armée des ombres. Alors, 2 films avec Melville, ça va. 1/3, ça risquerait de faire des dégâts, puisque c'est un cinéaste qu'il ne respecte pas. Lino décide donc de payer un gros dédit pour rompre le contrat qu'il avait déjà signé pour le Cercle Rouge. Le rôle du commissaire Mattei ira à Bourvil. En 1969, retrouvailles avec Gabin dans Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil, dont le scénario est encore signé, José Giovanni.
Vous avez demandé à me parler, monsieur?
Vous êtes Monsieur Manalez?
Oui.
Commissaire Le Goff.
Enchanté.
J'aurais aimé poser quelques questions à un de vos employés.
Moi, je vais l'envoyer chercher. Comment s'appelle-t-il?
Léonie.
Mais j'y pense, Léonie, je l'ai renvoyé. Attendez, j'ai renvoyé il y a environ 2 ou 3 mois. Je peux vous le dire en consultant mes registres.
Et on peut savoir pour quelle raison vous l'avez renvoyé?
Ah, pas pour des raisons professionnelles, mais enfin, c'est assez délicat à expliquer.
Comment ça, délicat?
Ben oui, parce que j'ai pas de preuves. Là, un jour, il donnait un coup de téléphone de l'atelier. Pour moi, un coup de téléphone bizarre. Il était question de permis de conduire, de passeport. Enfin, j'ai eu nettement l'impression, hein, qu'il arrondissait sur moi avec des combines.
Vos papiers?
Ben, je sais pas, mais enfin, dans le doute, j'ai préféré m'en séparer.
Vous auriez dû avertir la police?
Eh oui, je sais bien, mais je vous dis, j'avais pas de preuves. Et puis, je vais être franc avec vous, il est né en Sicile comme moi, j'ai voulu lui donner une chance, à condition que ça soit pas chez moi. Voyez, monsieur le commissaire, ici, c'est une entreprise familiale. Moi, je vais bientôt me retirer en Sicile, alors je voudrais pas laisser un trop mauvais souvenir.
Ces passeports, ça vous dit rien?
Bosquet, Perrer, Levallois. Mais dites donc, c'est un véritable plan de Paris, ça. Non, j'avoue que ça ne me dit rien du tout.
Ces photos non plus?
Ah ben dites donc, alors là, c'est une blague.
Eh oui, monsieur Manalez, une mauvaise blague pour nous. Une lampe qui s'allume trop tôt, et me voilà obligé de repartir à zéro. Cherchez pas à comprendre.
Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon. Quand on a une telle affiche, on fait attention à la place des noms. Henri Verneuil demande à Delon et Ventura, qui trouvent évident que Gabin passe avant eux. Le nom du vieux se retrouve donc en haut, au-dessus des deux autres. Quand le film sort, des avant-premières sont organisées au profit de Personnage, l'association pour les enfants handicapés que Lino a créée en 1965. Car en 1958, Odette et Lino sont devenus parents, pour la troisième fois, d'une petite fille prénommée Linda, qui peu à peu s'est révélée une enfant, pas comme les autres. Personnage, ce fut le seul et unique engagement de Lino, la seule fois où il parla d'autre chose que de cinéma dans les médias.
C'était un été ordinaire, ces garçons-là étaient gentils. Trouvais toujours les mots pour plaire. Moi, je me cachais pour écrire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Les filles avaient ce goût amer, j'en avais peur jusqu'à vomir. Ces garçons-là savaient y faire. Moi, je n'avais pas mon mot à dire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Les couples avaient sans prévenir, ces garçons-là étaient virils. Et la violence à divertir, avec ce garçon si facile. Tiens-le, 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 tiens-le. Un jour ces garçons m'ont suivi, et leur moto fait rugir. La terreur à mes yeux rougit. Ces garçons-là m'ont fait courir. Je n'avais qu'une idée en tête, toucher la fille et puis partir. Montrer quel garçon j'allais être. Je voulais juste m'en sortir. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Mes yeux d'oreille, mes parents n'ont jamais su que l'enfance y était perdue. Là-bas, 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 là-bas. Et je n'ai jamais pu oublier le visage de ces garçons-là. Et puis je n'oublierai jamais, j'étais ce garçon ordinaire, j'étais ce garçon ordinaire, avec son histoire à écrire. Promis, je ne vous oublierai pas, je suis ce garçon ordinaire. Promis, je ne vous oublierai pas. Promis, je ne vous oublierai pas. Ce garçon ordinaire, ce garçon-là, ce garçon-là, ce garçon-là.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
Lino Ventura. Lino Ventura qui est un petit peu soupolé, c'est ça qu'on aime au cinéma. Et surtout, il est soupolé avec Monsieur Milan. Et il s'en fout du pavillon à Poissy de Monsieur Pignon.
Vous m'attendez dans la voiture pendant que je lui parle et puis après je vous laisse tous les deux.
Une seconde, je vais changer mes chaussures.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous la connaissez pas? Faudrait que je vous explique la situation tout de même.
Vous m'expliquerez tout ça tout à l'heure dans la voiture.
Il ne s'est même pas présenté. François Pignon. Et vous, c'est... Votre nom, c'est comment, déjà?
Milan.
Comme la ville? Parce que vous êtes vraiment très gentil avec moi, vous savez ça. Je veux dire que j'ai de la chance d'être tombé sur vous.
On prend votre voiture?
Oui.
Attendez une minute, là. J'ai un truc à prendre dans le coffre de ma voiture. J'ai fait construire un pavillon à Poissy. J'ai apporté les photos. Je me suis endetté jusqu'au cou. Puis elle est partie. Pavillon magnifique. Vous allez voir. Elle n'a pas voulu. Je me suis installé tout seul. Pourquoi elle a fait ça? Je comprends pas. Le vivre sans elle, c'est plus vivre.
Donnez-moi ça.
C'est une même vraie ce qu'on dit. Hein. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Est-ce que c'est tout de même pas comme ça que vous ouvrez le coffre de votre voiture?
Non, excusez-moi. Je...
Bon, allez, c'est, je m'en fous. Je m'en fous complètement de votre voiture. Je m'en fous de tout maintenant. Laissez, vous y prenez comme un cochon, vous faites une soudure. C'est pas comme ça que vous allez l'arranger. D'ailleurs, c'est pas ma voiture, elle est là, ma voiture.
Il y a des jours.
Lino est un parfait soupolé. D'ailleurs, paf, hein, face à Isabelle Adjani, la gifle part. Et c'est le triomphe au box-office pour cet ancêtre de la boum. Les années 70, c'est aussi la rencontre de la star Lino avec Lelouch. Lino est un peu hésitant, mais son pote Jacques Brel le rassure. Claude Lelouch est un type formidable. Il y aura d'abord « L'aventure, c'est l'aventure ». Et ils vont tellement bien s'entendre que Lino enchaîne, devant la caméra de Lelouch, avec une histoire de casse qui devient une histoire d'amour, peut-être le meilleur Lelouch.
Vous avez vu, prima della rivoluzione?
No.
Bertolucci porta un... tre pugni in tasca di bell'occhio?
Non plus, non.
Vous avez sûrement vu une autre de mes femmes? Par parler que de ça, en ce moment.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non.
Alors, comment faites-vous pour choisir un film?
Comme je choisis une femme. En prenant des risques. Merci pour dîner et joyeux Noël.
Monsieur Lam.
Le sait-on? Stanley Kubrick aimait beaucoup La Bonne Année. Il montrait régulièrement ce film à ses acteurs avant un tournage. Il l'a notamment projeté à Tom Cruise avant Eyes Wide Shut. Mais dans les années 70, le plus grand rôle de Lino, et celui dont il était le plus fier, sera celui du policier Rojas, qui enquête sur une série d'assassinats de juges italiens dans Cadavre exquis de Francesco Rosi. Et le film sera présenté à Cannes. Mais cette année-là, à Cannes, oups, l'hôtel avait oublié de mettre des fleurs dans la chambre de Lino pour sa femme. Lino Ventura ne reviendra jamais au Festival de Cannes. Dans le genre tête de mule, nous avons aussi les rôles qu'il refusa, comme le militaire français dans Apocalypse Now de Coppola, parce qu'il jugeait ce personnage imbuvable, ou le scientifique de Rencontre du Troisième Type, parce qu'il ne croyait pas à cette histoire de soucoupe volante. À sa place, Spielberg engagea François Truffaut. À partir des années 80, Lino Ventura tourne un peu moins, des bons polars carrés, mais il préfère préparer la pasta, et plus particulièrement des spaghettis aux palourdes, sa spécialité, pour ses copains Jacques Brel ou Georges Brassens, dans son fief de Montretout, à Saint-Cloud. Attention, avec la bouffe, fallait pas plaisanter, et même les œufs au plat devenaient les œufs à la Lino. Il fallait que les jaunes soient déposés après les blancs, pré-cuits dans un mélange d'huile et de beurre, le genre léger. En 1981, heureusement tout de même, il aime et il accepte le rôle de l'inspecteur Antoine Gallien, ce flic qui fait bien son boulot, y compris les soirs de réveillon, en face de monsieur le notaire Martineau.
Dites-moi, c'est après ou avant la visite à votre sœur que vous êtes allé dans ce fameux bistrot ?
Après. J'avais trouvé Jeanine amaigrie, très fatiguée, j'étais bouleversé. Je suis allé boire un verre et je n'ai pas fait attention, j'ai garé ma voiture au mauvais endroit.
Et au mauvais moment. Et vous êtes resté combien de temps dans ce bistrot ?
Je n'ai pas fait attention, il y a à peine une heure.
Et après ?
Après, je suis retourné chez ma sœur.
Directement ?
Presque.
Presque, oui. Mais pas tout de suite, Martineau. Pas tout de suite. Vous avez d'abord fait un tour du côté du phare. Il est splendide, le phare de Saint-Clément, non ?
Oui, en effet. J'ai fait un saut jusqu'au phare.
Pour prendre l'air ?
Vous venez de dire vous-même que le phare de Saint-Clément était splendide. Eh bien, je suis allé voir le phare. Il y a bien des gens qui viennent de Paris.
Oui, d'accord, d'accord. Bon, vous avez vu le phare. Et après ?
Après ? Eh bien, après, ben, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Je vous l'ai dit. J'avais laissé ma voiture sur le port et je suis retourné chez ma sœur, 12 rue des Lorientais.
Par la plage ?
Par la plage ?
Oui, parce que pour retourner à pied du phare à la rue des Lorientais, il faut obligatoirement longer la plage.
Bah oui, ça me paraît évident.
Et ce qui est moins évident, c'est le corps de Pauline Valéra, maître. Celui qui a fait ça est forcément passé par la plage. Il est forcément passé par la plage, comme le coupable du viol de la petite Geneviève Le Bailly, lui est forcément...
Mais curé, pourquoi dites-vous celui qui a fait ça ? Le coupable, l'assassin. Donnez-lui un nom à ce fantôme. Dites Maître Martineau, notaire, puisque vous en êtes persuadé.
Pas tout à fait, Martineau. Pas tout à fait. C'est pour ça que vous êtes encore là, d'ailleurs.
Je suis là parce que je le veux bien. Parce que l'autre m'a demandé de venir. Maintenant... Je m'en vais.
Asseyez-vous, maître. Vous ne partez pas.
Comment ça, je ne pars pas ? Ah oui, mais alors là, attention, mes bons amis. Parce que vous n'avez plus tellement de possibilités. Ou c'est la relaxe pure et simple, ou la garde à vue, ou bien vous me déférez au parquet.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais assez la garde à vue.
Céro décroche le César. Il aurait pu aller aux deux. Et c'est encore un film dialogué par son grand poteau Audiard, en mode dramatique cette fois-ci.
Mais je pense que quand Michel était passionné par quelque chose, d'un seul coup, comme il était passionné par... on connaissait tous ses grandes qualités, mais on connaissait tous également ses grands défauts. Et il en faisait un petit peu, si vous voulez, qu'à sa tête, je veux dire. Mais là, il s'est pris de passion pour ce sujet, puis d'un seul coup, il a fait ses... Ces dialogues qui ne lui ressemblent pas tellement, il faut dire la vérité.
Mais comme Gabin, Lino n'avait pas toujours besoin d'un dialoguiste pour en balancer une bonne. Vexé lorsque Roger Hanin, qu'il aimait beaucoup, voulut qu'il reçoive la Légion d'honneur des mains de Mitterrand, Lino s'exclama « Qui est-il ? chef de l'État ou pas, pour m'accrocher une médaille, qu'il la donne à ma femme. Ce qui fut fait. Et pour expliquer que jamais il ne tournerait de scène de lit, ce comédien à la pudeur de première communiante trouva une formule qu'Audiard n'aurait pas reniée. Je ne suis pas Marilyn Monroe, je ne peux pas poser tout nu dans un bain de mousse. En même temps, maintenant qu'on y pense, on l'aurait bien vu dans un bain moussant, Lino. On se fait des films avec Lino, c'est fini. Alors vous êtes obligés ce week-end de faire des pâtes, de faire de la pasta. Cette émission était préparée par Lorraine Bess et Claire Tesser. Elle était réalisée par Hélène Bisio et à la technique Anne-Laure Cochet et Muriel Pérez qui choisit les disques.